te glorifier.
Glorifier ton nom.
Et nous présentons nos cœurs dans ta présence, Seigneur.
Seigneur.
Afin que ton nom soit glorifié.
Que ton nom.
Oui, Seigneur.
Et grand.
Alléluia.
Et digne de louange. Nous voulons te glorifier.
Oh, thank you, Lord.
Seigneur.
Alléluia.
Glorifier ton nom.
Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Yes Lord. Dans cette même attitude, je voudrais que tu prennes ta Bible et que tu l'ouvres dans le livre de Matthieu 24. Tu restes debout, tu prends ta Bible, tu l'ouvres dans le livre de Matthieu 24. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais lire à partir du verset 36. La Bible dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Seigneur, merci de disposer chaque cœur. Ta parole est si puissante et si précieuse que nous voulons la recevoir avec foi dans nos vies, afin qu'elle produise en nous ce que tu attends et qu'elle nous aide à être le reflet, Seigneur, de ce que tu veux manifester sur la terre au travers de ton Église dans ton royaume. Que ton règne vienne. Que ta parole, Seigneur, soit pour nous une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, afin que dans notre génération, nous ne dérivions point en ce qui concerne les choses précieuses, mais que nous puissions valoriser ce que tu valorises, respecter ce que tu respectes et mépriser ce que tu méprises, pour que ton nom soit exalté. Tu es notre Dieu. Que ton nom soit béni. Je mets une demande devant ton trône. Pour une capacité exceptionnelle d'enseigner ta parole, de prêcher ta parole, Seigneur, en ce jour, afin que chaque vie soit bouleversée et que ta parole et ta vérité s'établissent dans nos cœurs, car tu es notre Dieu. Aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus, nous avons prié et que chacun dise amen, amen, amen. Merci Seigneur, tu peux t'asseoir. Les disciples du Seigneur lui ont posé la question. Qu'en sera-t-il? Comment est-ce que nous ferons pour savoir que la fin des temps arrive? Et le Seigneur, pour répondre, va simplement, n'est-ce pas, dire ceci à ses disciples. Il dit, en ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, Mais le Père, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien. Et la Bible dit, il en sera de même, n'est-ce pas, au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Alors, pourquoi est-ce que, parlant, n'est-ce pas, de son avènement, de l'avènement du Fils de l'homme, le Seigneur Jésus va prendre pour, n'est-ce pas, un repère prophétique, le fait que les hommes se marient et font et marient leurs enfants, que les hommes mangent et boivent. Dites-moi, est-ce que quand Dieu a créé l'homme, il n'était pas normal que l'homme boive? Est-ce qu'il n'était pas normal que l'homme mange? Et dit que les hommes seront en train de manger et boire. Est-ce que c'est un événement spécial? Non. Manger et boire, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Parce que c'est une prescription du Seigneur si nous voulons subsister dans le naturel. Se marier, ça fait partie de ce que Dieu a prévu pour l'homme. Mais Jésus dit, quand vous verrez les gens manger et boire, comme au temps de Noé, se marier et marier leurs enfants, alors, tenez-vous prêts de savoir que bientôt, n'est-ce pas, l'avènement du Fils de l'homme se fera. Vous savez, je crois pour ma part que le Seigneur était en train de parler, de manger dans le sens de orgie et de boire dans le sens de s'enivrer. Et de parler du mariage dans le sens où on le voit aujourd'hui, dans le sens de la dévalorisation de l'alliance du mariage. Aujourd'hui, les gens se marient en Europe par contrat. Et nous voyons bien aujourd'hui ici même des gens qui n'ont aucun respect pour le mariage. Dieu dit dans Hébreux 13, verset 5, que le mariage soit honoré de tous. Nous devons honorer le mariage, respecter le mariage, traiter le mariage avec dignité, mettre le mariage sur un piédestal, n'est-ce pas, de sainteté, afin que la gloire qui lui est réservée par Dieu soit sur la terre comme Dieu l'a voulu. Vous voyez, il y a des gens qui se marient, les hommes se marient entre eux. Nous voyons des pasteurs bénir les mariages d'hommes. Nous voyons, n'est-ce pas, les femmes se marier entre eux. Et aujourd'hui, vous voyez, des gens vont même jusqu'à dire qu'il est normal pour un couple homosexuel d'adopter des enfants et de les mettre dans la maison. Mais s'ils voulaient tant des enfants, ils n'avaient qu'à respecter la voie que le Seigneur avait prescrite. Est-ce que vous me comprenez? Et vous voyez des parlementaires défendre ses intérêts. Ça veut dire simplement que l'abomination a atteint son comble sur la terre. Mais ce n'est pas parce que l'abomination existe, ce n'est pas parce que les gens rejettent la parole de Dieu que nous, enfants de Dieu, nous devons suivre leur exemple. Nous devons plutôt montrer au monde qu'il y a un autre exemple, qu'il y a un autre standard, il y a une autre volonté, n'est-ce pas, en marchant selon les voies du Seigneur. Je crois pour ma part que le mariage est l'expérience que Dieu nous donne d'avoir sur terre de ce que le royaume des cieux sera quand nous y serons. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se marient, mais sur la terre vivent plutôt l'enfer. Et sont pressés d'attendre que le Seigneur revienne, parce que c'est un enfer dans leur maison. Est-ce que vous me comprenez? Alors ce matin, je voudrais parler avec vous de l'alliance du mariage. Vous ne pouvez pas respecter ou honorer ce que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas traiter avec dignité quelque chose dont on ne vous a pas parlé. Si aujourd'hui le président de la Guinée-Bissau entre dans cette salle, beaucoup d'entre nous ne sauront même pas que c'est un président qui est entré parce qu'on ne le connaît pas. Mais si le président, n'est-ce pas, Babo, entre ici, tout le monde aura une certaine attitude de respect et d'honneur. Pourquoi? Parce que nous le connaissons. Généralement, les gens méprisent et, n'est-ce pas, ne respectent pas ce qu'ils ne connaissent pas. Alors, on fera connaître la pensée de Dieu au sujet du mariage afin qu'il le respecte et afin qu'il l'honore. Vous voyez, le mariage est une institution divine. Le mariage a été institué par Dieu. Et c'est une institution qui a existé avant même l'institution de l'Église. C'est-à-dire, aux yeux de Dieu, Dieu a manifesté l'alliance du mariage, institué le mariage avant même que l'Église n'existât. Est-ce que vous me comprenez? Donc, aux yeux de Dieu, le mariage a plus d'importance que l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église n'est constituée que de personnes qui vivent, n'est-ce pas, dans des familles et qui sont mariées. Ou alors qui découlent d'un mariage. Genèse 2, versets 18 à 25. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide qui lui soit semblable. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et il dit, voici. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Voyez, Dieu dit, après avoir créé l'homme, quand Dieu a créé l'homme, Dieu crée l'homme à son image, il crée à sa ressemblance, il le crée à l'image de Dieu et Dieu les bénit. Il bénit les deux en disant, soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez la terre et dominez. Et la Bible vient nous dire ici qu'après avoir mis l'homme dans le jardin d'Éden, afin que l'homme cultive le jardin et que l'homme le garde, Dieu réalise qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit, il n'est pas bon que cet homme soit seul. Maintenant, suivez-moi attentivement. Vous devez comprendre ceci, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Pourquoi est-ce qu'il le dit? Pourquoi Dieu dit à l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul? Parce que, quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse 1, verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa homme et femme. Et Dieu les bénit. Dieu n'a pas béni une personne dans la création, il a béni deux. Et pour que la parole que Dieu a annoncée à cet homme s'accomplisse, il fallait bien que les deux personnes qui a été bénies au départ soient ensemble. Et Dieu dit, il n'est donc pas bon que cet homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Et c'est ainsi que Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil et sortit, n'est-ce pas, une côte de la forme de l'homme et qu'il plaça une côte de l'homme qu'il plaça en face de l'homme. Et cette côte, n'est-ce pas, a été appelée Ève par Adam. Mais suivez-moi bien. Vous voyez, le problème que nous avons aujourd'hui à l'église et même dans le monde, c'est que beaucoup de personnes se marient sans comprendre quelle a été la pensée de Dieu en ce qui concerne le mariage. On ne se marie pas parce qu'on a envie d'avoir des relations sexuelles. On ne se marie pas parce qu'on a un problème, n'est-ce pas, de contrôle de sa chair. Non, on se marie parce que, au départ, le mariage est une institution de Dieu et qu'il n'est pas bon pour nous d'être seuls. On se marie dans le but d'accomplir les desseins que Dieu s'est fixés pour nous. Est-ce que ça va? Donc, on ne se marie pas simplement parce qu'il faut avoir un partenaire. Non, on se marie parce qu'il faudra avoir quelqu'un avec qui on décide d'accomplir le mandat que Dieu a placé au devant de nous. Est-ce que vous me comprenez? Donc, suivez-moi bien. Dieu, quand Dieu va les bénir dans Genèse 1, verset 27 à 28, je vais lire, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, et la Bible dit, Dieu les bénit. La Bible n'a pas dit, Dieu le bénit, mais Dieu les béni. Il a béni qui? Il a béni qui? Et qu'est-ce que Dieu va dire à l'homme? Il a béni en disant quoi? Sois fécond. Hein, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il va dire d'autre? Et ensuite, multipliez, remplissez et dominez. Maintenant, l'homme, n'est-ce pas, qui a été créé par Dieu au départ, a été béni par Dieu. Mais quand Dieu a béni cet homme, maintenant vous devez comprendre quelque chose. Quand Dieu a béni cet homme, cet homme n'était pas seul, ils étaient deux. Bien, je vais illustrer quelque chose. Le premier homme que Dieu a créé, comment il s'appelait? Et quand Dieu a créé Adam et qu'il a mis Adam dans le jardin d'Éden pour cultiver le jardin et pour le garder, est-ce que Adam était avec Ève? Très bien. Mais quand Dieu a béni, il a béni qui? Mais s'il a béni Adam et Ève, où était Ève? Puisque Dieu dit, il les a bénis deux. Mais plus tard, on ne voit qu'une seule personne dans le jardin. Adam était un être différent de nous, mais semblable à nous. La différence qu'Adam avait de toi, c'est que Adam, quand il était dans le jardin, initialement, il avait ses côtes paires, parce que sa femme était en lui. Est-ce que vous me comprenez? Et il n'y a aucun homme après Adam qui soit né avec les codes père. Le seul homme qui avait ses codes père, c'est-à-dire en père, c'était Adam. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est la raison pour laquelle, quand le second Adam est venu à la personne de Jésus, il n'a pas jugé utile de se marier, parce qu'il est venu exactement comme le premier Adam, avec toutes les côtes à l'intérieur. Est-ce que vous me comprenez? Toutes les côtes étaient à l'intérieur. Jésus est né avec les côtes père. Parce qu'en lui était ce qui devait être sa femme. Mais elle n'a pas été manifeste. Il est venu justement régler le problème du premier Adam. Il s'est placé à la place d'Adam, qu'Adam avait quand la femme n'était pas encore sortie de lui. Et c'est pour ça que la Bible dit, toutefois dans le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme. Parce que quand Christ accomplissait cette œuvre, l'homme et la femme était portée à l'intérieur de cette côte. Ok. Est-ce que ça va? All right. Maintenant, suivez attentivement ceci. Dis à ton voisin, on est en train d'aller quelque part. Ah, ça va être grave ce matin. On est en train d'aller quelque part. Alléluia. Amen. Maintenant, suivez-moi bien. Suivez-moi. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Maintenant, je veux que vous compreniez ceci. L'enseignement de la parole de Dieu est fondamental. Mon peuple périt faute de connaissance. Vous voyez, je suis allé hier dans la Bible et fouillé profondément pour demander à Dieu de me faire comprendre ce mystère que je vous révèle. Reprenons Genèse 1, versets 26 à 27. La Bible dit, Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout le bétail qui rampe sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ok? La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa homme et femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Arrêtons-nous là. Je reviens. Suivez attentivement. Quand Dieu pense créer l'homme, il dit, faisons l'homme à notre et à notre afin que l'homme domine sur la poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Maintenant, quand Dieu veut créer l'homme, la Bible dit quoi? Il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le crée homme et femme. Il le crée à l'image de Dieu. Très bien. Et il les bénit. Il bénit les deux, l'homme et la femme, et il dit, soyez féconds. En quelque sorte, suivez-moi bien, quand Dieu a pensé créer l'homme, en aucun moment, il n'a pensé à l'existence de l'homme seul. Il a pensé que l'homme devrait exister avec sa femme. Et c'est pour ça qu'il a dit, faisant l'homme à notre image. Ça veut dire que le mot homme qui est employé ici n'est pas le même mot homme qui est employé après quand on dit, l'homme, Dieu créa l'homme et la femme. Non, je suis allé dans le grec. Et voici exactement ce que signifie le premier mot homme. Il vient du mot Adam. A accent circonflexe, D, A accent circonflexe, M, qui signifie l'être humain. Dieu dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'être humain à son image, selon sa ressemblance. Et il fit l'être humain, homme et femme. Et le mot homme veut dire mâle. Et le mot femme veut dire femelle. Faisons l'être humain, femme, mâle et femelle. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si je reprends la lecture de la Bible, maintenant, en appliquant les mots et grecs dans ce passage, voici ce qu'on obtient. Et la Bible, la version Darby, n'est pas très loin. Et même Amplified Bible sont proches de cette version. Dieu créa l'être humain à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Mâle et femelle, il les créa. Donc l'être humain a été créé mâle et femelle, en quelque sorte. Si, suivez attentivement, est-ce que Dieu le Père est Dieu? Est-ce que Jésus est Dieu? Très bien. Mais vous savez, vous voyez Jésus, tu peux dire Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Ok. Le Saint-Esprit est Dieu? Ok, très bien. Mais est-ce que vous savez que normalement, pour parler de Dieu, en tant que Dieu, il faut véritablement que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient ensemble. Et c'est cet ensemble qu'on appelle Dieu. Mais par extension, on peut appeler Jésus Dieu, Saint-Esprit Dieu ou le Père Dieu. Mais quand on dit Dieu qui a créé au départ, l'homme à son image, l'homme à sa ressemblance, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Donc, si on appelle un homme homme, ou une femme femme, ou une femme être humain, ou un homme être humain, c'est par extension. Mais le véritable être humain, c'est la conjonction du mâle et de la femelle. Donc, quand le mâle et la femelle ne sont pas mis ensemble, le véritable être qui devait exister sur la terre n'est pas encore révélé. Alright. Ok. Est-ce que ça va? Donc, en fait, l'être humain aux yeux de Dieu, c'est le mâle plus la femelle. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que ça va? Le mâle plus le mâle, ça ne fait pas un être humain. La femelle plus la femelle, ça ne fait pas un être humain. Un être humain, c'est l'homme plus la femme. Et c'est pour ça que ce qui naît de cette alliance est sanctifié et prend la place de fils. Donc un enfant qui est né d'un père et d'une mère devient être humain par l'alliance du père et de la mère qui donne naissance au fils. Ok. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me comprenez? Donc, en quelque sorte, je me vois là dans la rue. J'ai un an, j'ai 20 ans, j'ai 15 ans, j'ai 50 ans. Aussi longtemps que je me balade tout seul comme je suis un être humain, mais je ne suis pas un être humain. Amen. Je suis un être humain. Je suis considéré de la race humaine. Et le fait de me voir révèle l'existence de quelque chose d'autre qui me complète et qui fait de moi cet être. Donc, dans la pensée de Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il n'y avait pas deux noms pour eux. C'est pour ça que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à, pas à une femme, mais à sa, à celle qui est sortie de sa côte. Quand je l'ai conçue, ils se retrouveront ensemble. Et les deux redeviendront une seule chair. Et que personne n'ose séparer ce que moi j'ai uni. Donc le fait que je sois femme et que je me regarde dans le miroir, c'est la preuve qu'il y a un homme qui a existé et qui existe encore pour moi. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ça fait que ça change la façon de prier. On ne prie pas pour que Dieu te donne un mari. On prie pour que ton mari et toi, vous vous retrouvez. Parce qu'il existe déjà, ton mari. Tu es sorti de ton mari. Amen. Amen, vous me comprenez? Donc, tu pries pour que celle qui est à côté te retrouve. Vous savez, Adam n'a jamais fait de prière en ce qui concerne sa femme. Il n'a jamais prié. Il n'a pas demandé à Dieu de faire ce miracle. Mais Dieu dit, lui-même, il n'est pas bon que cet homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Mais cette aide existait déjà en lui. Alors, vous vous rendez compte que c'est dans un grand piège de l'ennemi aujourd'hui. Tout le monde est excité au sujet du mariage. Oh, mariage, 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 mariage. Et vous voyez souvent les gens les plus concentrés, les plus consacrés. Quand on parle du mariage, ils perdent les repères, surtout les femmes. Oh, mariage, mariage, mariage. Non, et c'est tout à fait, écoute-moi bien, tu sors d'un homme. Tu es la côte d'un homme. Et cet homme existe. Il est quelque part. Et vous vous retrouverez. C'est pour ça que la Bible dit toutefois dans le Seigneur, l'homme n'est point sans la femme. Et la femme n'est point sans l'homme. Une fois que tu es sauvé, Dieu dit, ne t'embête pas. Tu n'es point sans la femme et la femme n'est point sans l'homme. Donc, Dieu a un plan pour chaque être humain. Est-ce que vous me comprenez? Alors, maintenant, suivez-moi bien, si chacun a bien compris. Donc, souvent quand on lit la Bible et qu'on voit le mot homme se met ici pour l'être humain. Et souvent, le mot homme qui signifie, qui est ish, i accent circonflexe, y, s, h, signifie l'individu ou bien la personne mâle. Donc, souvent par extension de ce mot grec, vous allez trouver l'homme et la femme. Et cet homme veut dire simplement le mâle et la femelle. Donc, en quelque sorte, l'être humain est composé du mâle et de la femelle. Le mâle plus la femelle, ça fait l'être humain. D'accord? Et c'est pour ça qu'il n'est donc pas bon que l'homme soit seul. Il faut que l'homme se combine et qu'il redevienne cet être humain pensé initialement par Dieu. Alors, si nous voyons les choses comme ça, ça devient très, très, très intéressant. Un homme ne pourra donc pas traiter sa femme avec mépris. Parce que s'il traite sa femme avec mépris, il traite une partie de lui-même. Ah, est-ce que ça va? Est-ce que vous me comprenez? Il traite une partie de lui-même mal. Une femme qui traite mal son mari se méprise elle-même parce que c'est une partie d'elle-même. Souvent, j'observe, je vois des couples avec des dissensions graves et des fossés incroyables. Alors que Dieu a dit, je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Tu ne peux pas être au niveau, 100 et ta femme est au niveau 2. Non, il faut qu'il y ait, vous soyez semblables quelque part. Et vous allez observer que, voilà le problème auquel nous assistons dans notre génération. L'homme se marie quand il est pauvre, quand peut-être qu'il n'a pas la capacité de choisir ce qu'il veut. Okay? Ou alors ce qu'il croit être pour lui. Il fait un choix, ce que j'appelle le choix de la déprime. Okay? Ou le choix de la vallée. Quand on est dans l'homme de la vallée de la mort, on choisit ce qu'il y a dans la vallée. Okay? Et encore, je veux te dire, ce que tu méprises, quelqu'un d'autre admire et respecte. Et c'est comme ça que Dieu a fait les choses, d'accord? Très bien, donc le plus important, c'est de retrouver celui qui t'admire. Et qui peut dire de toi, waouh, voici ce qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Il y a toujours un homme quelque part qui va te respecter. Même si tous les autres hommes t'ont traité avec, je te dis, il y a un homme qui va t'honorer. Parce que c'est le plan de Dieu. Il y a quelqu'un qui va t'honorer. Et qui va te célébrer. Amen. Parce que c'est comme ça que Dieu a voulu que les choses se fassent. Mais suis-moi bien. Dieu, n'est-ce pas, va créer l'homme et la femme. Mais ensuite, suivez-moi bien. Il y a ce que nous devons comprendre. Vous voyez, Dieu lui-même a été créé de la sorte. Dieu a existé en mâle, a existé en femelle et en enfant. Parce que quand on parle de Dieu le Père, c'est lui le Père. Le Père est celui qui donne la semence. La femme est, celle qui porte la semence. Et le Fils est ce qui naît, n'est-ce pas, de l'alliance entre le Père et la Mère. Et dans ce cas de Dieu, Jésus-Christ, qui est devenu, qui s'est fait chair, n'a été que la sémence du Père déposée dans le Saint-Esprit, qui, elle, est descendue dans le ventre de Marie pour trouver cet endroit comme le lieu de refuge pour porter l'enfant de Dieu et amener au monde. C'est pour ça qu'on n'a pas eu besoin que Marie connaisse une relation sexuelle, parce que le Père a déposé sa sémence et le Saint-Esprit est descendu sur Marie. En fait, le Saint-Esprit est entré et resté à l'intérieur et a porté en Marie le Fils du Père. Amen. Amen. Maintenant, suis-moi bien. Souvent, le fait que Dieu ait choisi Marie, on dit son nom, c'était une vierge, elle ne connaissait pas d'homme. Non, le plus grand miracle que Dieu a voulu montrer aux hommes, c'est qu'il est capable de faire des choses qui surpassent notre entendement. La femme était vierge, il n'a pas eu besoin de l'apport d'un homme. Il a dit, je ferai mon miracle sans qu'aucun homme ne participe à la chose. C'est pour ça qu'il a choisi une femme vierge, pour montrer que là où il n'y a jamais rien eu, je peux faire quelque chose. Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que la Vierge a été choisie. Amen. Et donc, Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même, capable de faire des choses incroyables. Et c'est pour ça que Dieu te donnera de te marier, d'avoir un mari et une femme, n'est-ce pas, qui t'honorera, qui te respectera, avec qui tu vas expérimenter la joie et le bonheur sur la terre. Il le fera. Même si on a dit dans ta famille que tu ne pourras jamais te marier, il le fera. Mais tout devra commencer par la foi que tu as dans ton cœur en ce qui concerne l'alliance du mariage. Vous voyez, Dieu est excellent. Et quand il a terminé ceci, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, oh j'aime ça, et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? À sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Donc, vous devez comprendre ceci. Pour que le mariage ait lieu, il faut bien qu'un jour, ce mâle qui est né sous la couverture parentale de son père et de sa mère réalise que lui-même, il devra exister en tant qu'autorité libre, quelque part avec sa femme. Et quitter son père, et quitter sa mère, signifie sortir de l'autorité de son père et de l'autorité de sa mère pour aller s'attacher à une femme. On ne prend pas une femme en mariage quand on n'a pas la capacité de sortir de l'autorité parentale. Et beaucoup de personnes se marient pour habiter la maison du Père. Vous ne pouvez pas être heureux comme ça. Il faut quitter le Père. Il faut quitter la mère. Et je vais plus loin. Souvent, ça peut te demander de quitter ta famille prophétiquement et spirituellement. Parce que ta maison ne va pas ressembler à ce que ton père a eu l'habitude de faire. C'est pas parce que ton père a battu ta mère que tu vas battre ta femme. Il faut quitter ton père. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas parce que ton père a pris tous les membres de la famille, il a mis dans la maison, que quand tu vas te marier, tu vas accueillir toute ta famille chez toi. La Bible dit, quitte ton père et ta mère. Parce que si tu n'as pas battu les vrais fondements, dès le départ, si tu n'as pas quitté, tu empêches à Dieu le soin de faire la chose exceptionnelle qui veut manifester dans ton mariage. Et tu fermes les portes du ciel pour la manifestation de cette gloire. Quitte ton père et ta mère pour s'attacher à sa femme. Il faut quitter. Il faut quitter. Et ensuite, vous voyez, il faut sortir de tous ces schémas, de tous ces clichés négatifs. Vous voyez, nos pères en Afrique nous ont éduqués dans un schéma que je dirais démoniaque, où la femme est traitée comme un esclave, où la femme est traitée comme un objet, où la femme est méprisée. On n'a pas de considération pour elle. Mais si tu méprises ta femme, tu ne considères pas ta femme, tu n'as pas du respect pour elle, sois-en sûr que toi-même, ton existence ne connaîtra pas d'épanouissement. Et je sais de quoi je parle. Je vous dis la vérité. Et la Bible dit de le faire afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Parce que ce que Dieu attend de l'homme et de la femme, c'est qu'ils soient un. Parce que si la femme commence à prier contrairement à la prière de l'homme, c'est la catastrophe dans la famille. Et c'est pour ça que beaucoup de familles ne sont pas bénies. Parce que la femme et l'homme ne sont pas en accord. La femme prie de ce côté, l'homme prie de l'autre côté. La femme veut voir ci, le mari veut voir ça. Non, il faut que vous soyez en accord. Et je vais vous dire quelque chose. C'est l'objet de mon message la semaine prochaine. L'accord, il faut lutter pour ça. Il faut sacrifier des choses. Il faut déposer son ego par terre et choisir de ne plus exister en tant que toi et de laisser Christ vivre à l'intérieur de toi. C'est une bataille perpétuelle qui ne s'acquiert pas en un jour. Ce n'est pas en un jour qu'on y arrive. C'est une bataille. Parce que le mâle a été élevé chez les agnis et la femelle a été élevée chez les adoucros ou alors chez les baolés ou souvent même dans une autre famille avec deux mentalités différentes. Deux façons de voir différentes. Et j'ai appris ceci. Ce que tu vois influence ce que tu deviens. Ce que tu vois influence ce que tu deviens. Ce que tu as vu chez toi, si tu ne fais pas attention, tu le reproduis là où tu vas. C'est pour ça que vous regardez les pasteurs qui quittent les églises pour aller créer une autre église. Ils critiquent leur patron, leur leader en disant non, il a fait ci, il a fait ça. Mais quand il s'en va créer l'église, il fait exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'il fait exactement ce qu'il a vu. Ce que tu as vu pendant longtemps va influencer ta vie terriblement. Il faut faire très attention. Donc, vous savez, nous devons considérer le mariage comme Dieu le considère. Sorti de l'autorité parentale. Un enfant qui n'a pas connu d'autorité parentale aura beaucoup de difficultés à exercer l'autorité parentale. Un enfant qui n'a pas connu l'autorité parentale n'exercera pas l'autorité parentale. Observez tout autour de vous. Quel est le vrai problème que les nations développées ont aujourd'hui? La liberté criarde des enfants. Au point où l'enfant appelle la police pour dire « mon père m'a maltraité ». L'enfant choisit de rentrer à la maison à l'heure qui le convient. Et la mère et le père ne peuvent pas parler. Plus grave, j'ai vu dans la maison, certaines de vos maisons, pas plus loin, ici, les enfants qui rentrent, et ils rentrent quand ils veulent, et vous n'avez pas le courage d'utiliser le fouet pour amener l'enfant à la discipline et à l'autorité. Si vous n'avez pas donné d'autorité parentale sur la vie de vos enfants, je vais vous dire, vous le regretterez tardivement. Parce qu'il deviendra une catastrophe. Il faudra que l'enfant grandisse sous l'autorité. Oh non, c'est mon fils, je ne peux pas le... Mais il va te montrer quelque chose plus tard. Amen. Et tu regrettes, sérieusement. Vous imaginez en pleine émission de télévision, une fille de 17 ans qui se lève et dit à sa mère, hey, j'ai plus besoin de toi. J'ai ma carte de crédit, j'ai ma voiture, je peux louer ma maison, je m'en fous. Fiche-moi la paix. La maman en face, comme ça, devant l'enfant. Et la maman est à un mètre de l'enfant. Je dis, mais qu'est-ce qui t'empêche de donner une belle claque à cet enfant? Écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. en ce qui concerne l'autorité parentale, vous devrez être ferme. L'amour de Dieu ne donne pas la permission aux désordres. Est-ce que vous me comprenez? Vous devrez être ferme. Mais maintenant, dis-moi, comment tu vas être ferme si toi-même, en tant que mari, tous les jours, tu rentres à 2h du matin? Ah, mais qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant? Tu ne sais même pas à quelle heure il entre, à quelle heure il sort. Comment tu vas faire? Comment tu vas avoir l'autorité sur ta famille si tu es incapable de pouvoir aux besoins de ta maison? Tu ne pourras pas. Est-ce que vous me comprenez? Et je vais vous dire quelque chose, frère. Dieu n'a pas été bête quand il a créé l'homme et la femme. Et qu'il ait d'abord caché l'enfant en l'homme. Pourquoi? Parce qu'il connaît la femme. Amen. Amen. Il connaît la femme. Dieu connaît la femme. Et il a d'abord caché la femme. Il a donc donné à l'homme tous les trésors seul. Et l'homme a commencé à nommer, mais la femme était en lui. Et c'est quand l'homme a montré à Dieu qu'il est devenu un homme. Et qu'on peut vraiment maintenant le considérer comme un vrai garçon. Que Dieu dit, oh, que tu es prêt pour ça. Et quand il sort la femme de la côte de l'homme. Quand la femme naît, regarde tout autour d'elle et dit, waouh. Et l'homme dit, hé, c'est moi, Adam. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand vous avez de l'autorité, quand vous avez démontré votre capacité à vous affirmer, ça devient plus facile à la femme d'être soumise à votre autorité. Parce que une femme ne se soumettra pas à un homme qui n'a pas de vision, qui n'a pas prouvé qu'il est capable de s'assumer. Je vous dis la vérité. Elle va peut-être porter ton nom, mais je vais te dire, son cœur n'est pas dedans. Il y a des femmes qui se marient parce qu'elles veulent devenir madame un tel. Mais pas parce qu'elles aiment l'homme qu'elles ont épousé. Ah non, c'était, je prenais de l'âge, il était là, mes parents m'ont conseillé, ainsi, je suis quand même allé. Mais le cœur n'est pas dans l'alliance. Vous savez, les femmes savent reconnaître l'homme. Elles savent savoir qui est homme. Elles savent qui est un homme. Parce qu'elles connaissent Adam. Quand Adam, dans sa démarche dans le jardin, Adam a regardé, il dit, waouh, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de moi. Et la seconde chose qu'il a dit, il dit, Ève, viens, je vais te montrer quelque chose. Je t'appelle Ève, parce que je vois en toi une porteuse de vie. Il a nommé sa femme, il a donné un nom, et il a dit, Ève. Écoutez-moi bien. Donc, il a eu la capacité de donner un nom à une femme. Vous savez, tu ne peux pas donner un nom à une femme si la femme ne trouve pas la sécurité en toi. Tu vas dire, hey, je vais t'appeler ma gazelle. Elle dit, hey, pentade que tu es, moi, gazelle. Laisse tomber. Quoi? Amen. Vous savez, si elle ne trouve pas la sécurité à tes côtés, je vais t'assurer que ton nom là, c'est pour toi-même. Quand tu l'appelles, elle ne regarde même pas parce que, vous savez, et pourquoi? Parce que ce n'est pas leur faute. La première Ève qui a été créée dans la sécurité totale. L'homme connaissait Dieu, il parlait avec Dieu. Vous avez aujourd'hui des maris qui ne savent même pas parler à Dieu. Et la femme le regarde. Et je vais vous dire une chose. Hein. Si votre femme prie plus que vous, et elle aime Dieu plus que vous, détrompez-vous. Même quand elle vous respecte, il y a une certaine forme de, je ne dirais pas mépris, mais il y a une certaine chose là derrière qui fait que vous dégradez votre image à ses yeux. Parce qu'il faut une sécurité à côté. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, on parlera de cela encore dans le message prochain. Comment est-ce que Ève a influencé toutes les autres femmes sur terre par son attitude? Comment est-ce qu'Adam déteint sur nous jusqu'à aujourd'hui? Et comment gérer ces conflits permanents qui sont tout le temps en train de créer des soubresauts dans le mariage? Vous savez, le but du mariage, ce n'est pas d'avoir le sexe. Non, on ne se marie pas pour avoir le sexe. Frère, le sexe, si tu te maries pour le sexe, c'est minable. On ne se marie pas simplement. Vous savez, le sexe est une bonne chose quand même. Hein? Chacun d'entre nous découle du sexe. S'il n'y avait pas eu sexe, tu ne serais pas là. C'est une très bonne chose. Mais on ne se marie pas pour le sexe. On ne se marie pas simplement parce qu'il faut, on te harcèle à ton bureau, tu as peur de payer des taxes ou des impôts élevés, alors tu prends une femme rapide. Trouve-moi une fille au village qui peut rester à la maison quand je sors. Ce n'est pas pour ça qu'on se marie. Et aujourd'hui, les femmes ont beaucoup plus de problèmes quand elles sont éduquées, quand elles sont éveillées, de trouver des hommes qui acceptent de les prendre pour femmes. Parce que l'homme aime dominer la femme du village. Quand il sort, elle est à la maison. Et quand, souvent, il y a des hommes qui ont même peur de montrer leur femme. Quand vous arrivez chez eux, la femme ressemble à un domestique. Je vais vous dire une chose. Je ne peux pas avoir de respect pour un homme dont la femme n'est pas respectée par lui. Et Dieu ne peut pas respecter un homme qui ne respecte pas sa femme. Impossible. Je vais vous montrer plus tard d'où ça vient, ce que nous avons eu, comment, d'où ça provient. Alors, vous voyez, Dieu dit, je ferai une aide qui soit semblable. On ne se marie pas parce qu'on a envie d'avoir des enfants. Non, ce n'est pas le but pour lequel on se marie. Vous voyez, on se marie, n'est-ce pas, parce qu'on a besoin. On a besoin d'entrer dans une alliance qui nous aidera sur la terre à accomplir le mandat de Dieu. Je vais me marier parce que je sais que j'ai besoin de telle personne pour aller avec moi sur le chemin de ma destinée. Et tout le reste, ce sont des agréments, ce sont des choses que Dieu donne pour parfaire, n'est-ce pas, mon existence terrestre. Et pour me donner d'expérimenter cette joie et cette paix sur la terre qu'il nous donne, qui est au-dessus de tout autre. On ne se marie pas, frère, parce qu'on a vu la femme belle. Non, 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 non. Tu ne pousses pas une femme seulement parce qu'elle est belle. Non. Et encore, attention, nous sommes dans une génération grave. Vous pouvez voir des femmes, ce que tu vois n'est pas ce qui est. Tu arrives à la maison le jour des noces, elle enlève son dentier, elle pose, il n'y a pas de dent. Hein? Amen. Mais tu ne savais pas. Et les cheveux que tu as toujours trouvés fantastiques, elle fait sa pape, il n'y a pas de cheveux. Et elle enlève son, ses soutiens, il n'y a pas de sein, tout est greffé. Tout est... Écoutez-moi bien, il faut faire attention, hein. On est devenu, et c'est un monde artificiel. Tout ce que tu vois n'est pas ce qui est. Amen. Il faut faire attention. Amen. Okay. Est-ce que ça va? Ah, dis à l'homme qui est à côté de toi, j'espère que tu entends ce qu'il est en train de dire. All right? Et on ne pousse pas un homme simplement parce qu'il a l'argent. On ne pousse pas un homme parce qu'il a réussi. Amen, non? Hein? Ça, vous me comprenez? Oh, mais non, il y a tel qui te veut. Qui, moi? Lui, là? Non, jamais. Mais qu'est-ce qu'il y a, ça? Il est trop spirituel. Moi, pasteur, je te dis, mais c'est un bon gars. Il aime Dieu. Il a une vision en lui. Mais pasteur, non, ça là, c'est pas pour moi. Pourquoi? Parce qu'écoutez-moi bien, souvent, le miracle que Dieu te donne ne ressemble pas à ce que tu attends. J'ai appris ceci. Dieu a son humour. Il sait, il a de l'humour. Il aime souvent faire rire les gens. Dieu sait te donner quelque chose sous la forme qui ne ressemble pas à ce que tu attends. Parce que si cette personne était déjà ce que tu attends, quelqu'un d'autre aurait pris avant toi. Est-ce que tu me comprends? Et c'est la raison pour laquelle Dieu l'a préservé. Et il n'y a que tes yeux qui le voient. Et qui voient en lui cette chose que Dieu a déposée. Cette gloire que Dieu a placée. Alléluia! Et puis tu dis au fond de toi-même, j'aime ce jeune homme. Parce qu'il y a une vision qui parle en lui. J'aime ce jeune homme parce qu'il a le sens de la destinée. J'aime ce jeune homme parce que je le vois grand. J'aime ce jeune homme parce qu'avec lui, nous allons bâtir une vie. J'aime ce jeune homme parce qu'il saura me protéger. Alléluia! Est-ce que ça va? Écoute-moi bien, ma soeur. Tu dois te préparer à être une aide. Pas l'aider à dépenser son argent dans les supermarchés. Non, non, non. Tu dois l'aider à se bâtir. Amen. Une aide. Il faut être une aide. Il faut l'aider à se construire. Il faut être à ses côtés. Pour que, n'est-ce pas, ensemble, vous puissiez dire un jour, nous avons construit ensemble. Le danger qu'il y a quand vous n'attendez que ceux qui ont déjà tout bâti, c'est que vous n'ayez plus de respect dans la maison. Il faut un homme hautement spirituel et qui aime Dieu pour respecter sa femme qui arrive alors qu'il a déjà tout eu. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce qu'en certains moments, on a tendance à dire, « Hey, c'est pour moi si... Hey. » Non, attention. Je vais même vous montrer dans le message qui va venir qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie parce que Dieu est en train de préparer la rencontre entre toi et quelqu'un d'autre. Et que si tu refuses d'aller sur ce chemin, Dieu va ôter sa grâce sur toi. Tout ce qui t'arrive ne t'arrive pas à cause de toi seul. Faut jamais l'oublier. Faut jamais l'oublier. Je dis jamais. Faut pas te tromper. C'est pas parce que c'est toi qui reçois les faveurs que c'est à cause de toi que la faveur arrive. Je sais que tu n'es pas seul. Je sais qu'il te prépare quelqu'un où il y a quelqu'un derrière toi. Et avec toi. Donc, il faudra apprendre à considérer ces choses et avoir ces valeurs en nous. Maintenant, frère, n'oublions pas ceci. Le premier homme a été mis dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Chaque fois que Dieu te donne quelque chose, que ce soit un homme ou une femme, cultive et garde. Je vais te dire, Dieu va toujours te donner ce que tu attends sous la forme d'une semence. À toi de cultiver et de garder. Cultive le potentiel que tu as vu dans cet homme. Cultive la grâce qu'il y a dans la vie de cette femme. Et garde-la. Et garde-le. Et tu verras ce que Dieu fera. Il faut apprendre à cultiver. Il faut cultiver. Et donc pour y arriver, il faut de la détermination. Aujourd'hui, je ne fais qu'introduire le message. En fait, de la semaine prochaine que je vais enseigner. Il faut de la détermination. Il faut quelque chose à l'intérieur de toi qui amène cette chose à existence. Et donc, il faut faire très attention, très très attention. Maintenant, suivez-moi bien. Pourquoi le mariage est donc une alliance? Pourquoi Dieu parle du mariage en tant qu'alliance? Parce qu'il faut comprendre ceci. Deux personnes ne marchent pas ensemble si elles ne sont pas en accord. Si elles ne sont pas en accord. Si elles ne sont pas en accord. Et partout où il y a accord, il y a alliance. Et laissez-moi vous dire ceci. Une femme qui épouse un homme sous la contrainte, sans être d'accord, en étant forcé, ce mariage aux yeux de Dieu n'a aucune valeur parce que ce n'est pas en accord. L'accord vient du cœur. Les filles de 14 ans qu'on dépose chez des messieurs de 70 ans, comme on a vu en Afrique, et en signe de mariage, on met l'alliance au doigt, légalement devant Dieu, légitimement devant son conseil, ce mariage n'a aucune valeur. Parce que cette femme n'a pas engagé son accord et n'était pas d'accord. Il faut que les deux personnes marchent ensemble, que les deux soient en accord. Juridiquement, selon la loi des hommes, ça peut être correct. Mais devant Dieu, il ne respecte pas parce qu'il n'y a pas eu accord. Deux personnes marchent ensemble quand les deux sont en accord. Et pourquoi? Parce qu'il faut comprendre qu'au-delà, n'est-ce pas, de ce que nous voyons, il y a une alliance qui se tisse derrière. Et vous voyez, dans la tradition juive, quand une femme allait en mariage, la femme allait et le lit du mâle était préparé par la belle famille. Et donc, aux noces, n'est-ce pas, quand la noce terminait, la première nuit, les deux familles attendaient au salon le lendemain matin. Et l'homme devait sortir avec le drap pour montrer à tout le monde que le sang s'est versé. Si le sang qui provient de l'hymen de la femme lors de son premier rapport n'était pas versé, la femme était lapidée. Parce que on avait donc la preuve que cette femme avait violé l'alliance du mariage. Elle n'avait pas honoré le mariage. Et elle courait de grands risques. Même aujourd'hui, dans certaines traditions, ça existe encore. N'est-ce pas? Et nous avons aujourd'hui au Maroc des docteurs spécialisés qui remettent aujourd'hui les hymen des femmes parce que la religion musulmane continue d'appliquer cette discipline. Parce qu'il faut voir le sang. Ce sang qui était versé symbolise une alliance qui existe entre l'homme et la femme. Si le sang n'était pas versé, il n'y avait pas alliance. Parce que l'alliance venait sceller le fait que la femme ne portera plus jamais son nom, mais portera le nom du mari. Elle deviendra maintenant Madame Untel. On l'appellera par le nom de son mari. Et quand tu es marié, il faut prendre l'habitude. On te demande ton nom, ne dis pas je m'appelle Adjoa, né, Adjoa. Et puis épouse tant. Non, il faut changer. Je suis madame tant. Tu n'as même pas besoin de rappeler aux gens que tu es né tant. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Parce que généralement, quand on rappelle je suis né tant, c'est qu'on n'a plus de référence à l'ancienne famille qu'à la nouvelle. Généralement, quand une fille sort de grande famille, si son père était un grand dignitaire du pays, elle va d'abord te dire, je suis tant, épouse tant. Pour te dire, je porte le nom de... Non, mais la Bible dit, il faut quitter. Pour t'identifier à ta nouvelle famille et faire disparaître l'ancien nom. Parce que le nom que tu portes est ton nom d'alliance. Vous savez, ça paraît subtil, mais c'est dangereux. Pourquoi? Parce que, généralement, on éduque maintenant nos femmes à se souvenir qu'elles ont d'abord un nom, et au cas où ça ne va pas là où elles sont, elles reprennent leur nom. C'est ce que ça veut dire en fait. Vous comprenez? Chaque fois, elle se rappelle de son ancien nom. Donc, si ça ne marche pas dans le mariage, je rentre. Je reprends mon nom et puis terminé. On n'a plus d'honneur et de respect, de dignité, de sainteté, d'adoration pour cet acte sacré. C'est une alliance de Dieu. Et vous voyez, donc, quand vous êtes mariés, vous devez comprendre que ça va au-delà même de vous deux. Vous êtes alliés. La famille de l'autre devient la famille de l'autre. Parce que la Bible dit dans 1 Roi 3, verset 1, que Pharaon a été allié, Salomon s'est allié, n'est-ce pas, en alliance, a eu une alliance avec Salomon par le biais de son mariage. Donc, quand tu te maries, tu es en alliance avec les pères, les mères de ta femme et sa famille. Je vais vous montrer une autre chose. Si la famille de ta femme portait une malédiction par l'alliance que tu as avec elle, la malédiction poursuit maintenant le nouveau couple. Mais si tu es un homme béni et que tu es dans l'alliance de Dieu, quand elle entre en alliance avec toi, la bénédiction que tu as bloque la malédiction. Est-ce que vous me comprenez? Mais vous devez comprendre que ça implique les familles. Pourquoi est-ce qu'on divorce facilement? Aujourd'hui, c'est parce que les gens vont se marier à deux. Non. Le mariage, ce n'est pas deux personnes seulement. C'est vrai que les deux vont devant le maire. Mais la famille apporte le témoignage de l'alliance. Et quand la famille derrière n'a pas apporté cette caution derrière, faites attention. Souvent, ça peut jouer des saltos plus tard dans votre marche avec Dieu. Parce que Dieu m'a enseigné ceci. La famille est donnée comme garde-fou. Vous savez, un homme qui ne respecte pas sa famille est très exposé. La famille est là pour te protéger. Et souvent, quand ton père te dit non, et ta mère te dit non, et ton père te dit non, et ta mère te dit non, et que toute la famille dit non, arrête-toi un moment pour voir. Sauf si tous sont loin, n'est-ce pas, de la connaissance de Dieu que tu sers. Mais il faut quand même s'arrêter. Et je vais même plus loin. Même si le père ou la mère est contre, prie jusqu'à ce que le père de la femme et la mère de la femme t'apportent leur fille sans avoir bu de l'alcool. Est-ce que vous me comprenez? Volontairement. Même s'ils veulent se rétracter plus tard, ils seront été témoins de l'alliance. Il ne faut pas trop se presser. Le mariage, c'est toute une vie. Amen. Il ne faut pas trop se presser. Souvent, on est trop excité. Oh non, ça va, j'ai trouvé mon gars, j'ai trouvé ma fille, bam. Et puis après, il y a des choses qui reviennent. Il y a des choses qui reviennent. Il faut faire, donc, ça implique beaucoup de choses. Et donc, on ne se marie pas pour dire, oh oui, aujourd'hui je vais en bien séparer. Quelles sont les histoires de bien séparer? Et j'entends même des pasteurs qui défendent en disant, non, quand l'homme est un homme d'affaires, il ne doit pas mélanger les biens des affaires avec les biens de la famille. C'est la folie. C'est être insensé, ce n'est rien comprendre en ce qui concerne l'alliance. Pourquoi je devrais avoir peur d'avoir un bien commun avec ma femme? Mais dites-moi, pourquoi? Et même je vais plus loin. Je vais plus loin. Écoutez-moi bien, je ne considère pas que ce sont mes biens, ce sont nos biens. Est-ce que vous me comprenez? Et aussi longtemps que je me tiens comme Dieu veut que je me tiens, la bénédiction continue d'affluer sur ma famille. Pourquoi? Parce que Dieu soutient le juste. Est-ce que vous me comprenez? C'est important. Non, bien séparé. Mais trouvez une autre formule. Mettez des noms d'emprunt, vous avez des cousins, vous pouvez trouver un cabinet de notaire, vous pouvez trouver un avocat qui vous trouve une formule juridique pour contourner si vous voulez protéger vos biens. Mais vous ne protégez pas vos biens par la séparation des biens. Parce qu'une fois que vous êtes bien séparé, vous allez finir par vous séparer. Parce que là, je vais vous dire la vérité, vous finissez par vous séparer. Et il y a beaucoup de familles qui dorment sur le même lit mais qui sont séparées. Beaucoup de mariages que vous voyez, les gens ne sont plus mariés. Ce sont des acteurs. Ils jouent en film. Il n'y a plus de mariage. Parce que la séparation est totale. Ce n'est pas parce qu'on habite la même maison, on a encore les alliances, que le cœur est dans l'affaire. Souvent, le cœur est parti depuis longtemps. Maintenant, il faut garder l'image aux yeux de la société. Et vous voyez les gens, quand ils arrivent à une fête, généralement c'est les hommes qui aiment ça, ils prennent leur femme et puis ils viennent et disent, chérie, souris, souris. Pourquoi tu veux qu'elle sourie? Amen. Souris un peu et que les gens voient. Pourquoi? Parce qu'il veut protéger son image. Il veut qu'on dise qu'il traite bien sa femme. Si tu veux la faire sourire, commence à la maison. Et elle-même, quand elle va sortir, elle va rire jusqu'à ce qu'on va voir toute sa bouche. Parce qu'elle est heureuse. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas des choses fabriquées. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me comprenez? Et donc, vous savez, nous parlerons de ça au message suivant. Les gens qui traitent une femme juste comme un objet, juste pour un instant, c'est dramatique. C'est sale. C'est irrespectueux. Manque de révérence et de connaissance en ce qui concerne Dieu et l'alliance du mariage. Alors, pour clôturer, parce que j'ai introduit, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que Dieu pense du divorce? Quelle est la pensée de Dieu à ce sujet-là? Aujourd'hui, les gens se marient et en Côte d'Ivoire, sur 10 mariages contractés, 7 sont des remariages et 3 sont de nouveaux mariages. Quelle est la pensée de Dieu au sujet du divorce? Qu'est-ce que Dieu pense au sujet du divorce? Quelle est la pensée de Dieu? Allons-y dans la Bible pour voir ce que Dieu pense. Matthieu 19. Alors, on peut commencer d'abord par Deutéronome 24. Deutéronome 24, versets 1 à 3. Et ensuite, Matthieu 19. La Bible dit, lorsqu'un homme aura pris, n'est-ce pas, une épouse, lorsqu'un homme aura pris pour épouser une femme qu'il viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après, la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une autre lettre de divorce et après lui avoir remise en main, la renvoie chez sa femme, ou bien si ce dernier qui l'a prise pour sa femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle ait été souillée. Car c'est une abomination devant l'Éternel. Maintenant, suivez-moi bien. Ok? Et revenons dans Matthieu 19. Je vais vous montrer quelque chose. Matthieu 19, on va lire le verset 6 à 9. Ok? Matthieu 19. D'accord? Est-ce que ça va? Tout le monde est là? Je peux lire. Verset 6 à 9, suivez bien. La Bible dit, ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair, que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Pourquoi, lui dit-il, Moïse a prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui sera répudiée, commet aussi un adultère. Alors, quelle est la pensée de Dieu au sujet du divorce? Vous savez, je vais vous dire que Dieu a le divorce en horreur. Il déteste et hait le divorce. Dieu n'aime pas le divorce. Maintenant, Jésus répondant en ceci, disant à ses disciples, l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, et devenant une seule chair, que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Les pharisiens vont lui dire, mais attends Jésus, attends. Nous avons la loi. Qu'est-ce que Dieu a dit? Pourquoi est-ce que Dieu a dit à Moïse de répudier sa femme? Vous savez, dans l'Ancien Testament, les femmes étaient vraiment traitées comme des objets. Tu prends une femme, tu arrives chez toi, après tu trouves que peut-être sa poitrine n'est pas comme tu aimais, tu écris une lettre, tu la donnes, et tu la lui donnes, et puis elle s'en va. Ok? Tu prends une autre femme, tu découvres que peut-être son nombril n'est pas comme tu pensais, tu écris une lettre, et tu renvoies. Donc, la Bible, on dit, si tu trouvais quelque chose d'honteux, dont les hommes se basaient dessus pour exploiter les femmes. Et quand vous regardez bien aujourd'hui, ça ressemble à quoi? À ce qu'on voit aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça ressemble exactement à ce qu'on voit. Sauf qu'aujourd'hui, les hommes choisissent de le faire sans aller à la mairie. Mais on continue d'utiliser la femme comme un objet à exploiter. Après, on entendit ici, il a fini avec, terminé. Dossier classé, on va au suivant. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu, d'accord? Dieu ne pense pas les choses comme ça. Non, non, non. Au commencement, l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme pour devenir une seule chair. Maintenant, Jésus va dire, Au commencement, il n'en était pas ainsi. À cause de la dureté de votre cœur, j'ai permis, n'est-ce pas, à l'homme de répudier sa femme. Mais celui qui répudie sa femme, sauf pour cas d'infidélité, et qui épouse une autre, commet un adultère avec elle. Maintenant, revenons sur le cas d'infidélité. Nous sommes dans l'alliance que j'appelle l'alliance de la grâce, de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Et, suivez-moi bien, ce que Jésus a dit ici, il n'était pas dans le Nouveau Testament. Jésus a parlé sous la loi, mais pas sous la grâce. La loi était la loi, et les 10 commandements de la loi étaient donnés sur les tablettes. Tu ne commettras point d'adultère. C'était un commandement de la loi que Jésus ne pouvait pas surpasser dans ses déclarations. Mais ici, suis-moi bien, Jésus parle aux gens qui sont sous la loi, qui n'ont pas encore été graciés. Le sang de Jésus n'a pas été versé. Mais quand le sang de Jésus s'est versé, Dieu a pardonné nos péchés, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que plus loin, Jésus va voir une femme adultère qu'on est en train de lapider. Et il va ramener le problème au standard de Dieu. Il va dire maintenant que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Pourquoi? Il essaie d'équilibrer les choses. Suivez-moi bien. Chaque fois que vous voyez quelque chose dans la Bible, faites passer cette chose à la croix pour voir si elle reste. Il y a des choses dans l'Ancien Testament qui, quand ça passe à la croix, ça disparaît. D'autres, quand ça passe par la croix, c'est révisé par Dieu. Ok? Et c'est le cas du mariage. C'est le cas ici. Quand tu passes ceci à la loi, à la croix, c'est révisé maintenant. Dieu nous demande, dans 1 Corinthiens 13, verset 7, de pardonner tout, de croire tout, d'espérer tout et de supporter tout, n'est-ce pas? Et la Bible dit dans Romains 5, verset 5, que Dieu a répandu son amour où? Dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Et dans Jérémie, je crois, 13, verset 32, 31, verset 13, Dieu, n'est-ce pas, nous a donné un cœur de chair, avec la capacité de marcher dans l'amour et de dire, je te pardonne tout, je supporte tout, j'endure tout et je crois tout. Est-ce que ça va? Donc, dans la nouvelle alliance, une femme ou un homme qui va au tribunal et qui dit, ok, je vais divorcer parce que mon mari ou ma femme m'a trompé, selon la Bible et selon Dieu, cette personne n'agit pas bien. Pourquoi? Parce que Dieu attend de moi que je pardonne à mon prochain. Vous savez, j'assiste à des choses exceptionnelles. Il y a des hommes qui chassent leur femme et qui disent, ok, ma femme m'a trompé. Souvent, ils n'ont pas de preuves. La femme dit, l'homme a... souvent, il n'a pas de preuves. Mais si j'aime véritablement, je couvre la faute. Même s'il est arrivé une faute, je la couvre. Parce que elle t'a peut-être trompé, mais tu lui as menti souvent. Souvent, quand tu es rentré à 2h du matin, tu as dit que tu étais au travail, tu n'étais pas au travail. Tu as menti et aux yeux de Dieu, tu as péché. N'oubliez pas que le premier homme qui a péché n'a pas fumé la drogue. Il n'a pas commis l'adultère. Il n'a pas commis un meurtre. Il a désobéi à Dieu. Et si nos cœurs sont souples, si l'amour existe, nous devons apprendre à protéger notre partenaire par l'amour. Je vais plus loin. J'aime ma femme. J'ai dit, je te pardonne tout ce que tu feras. L'amour que j'ai pour ma femme, démontré, met des garde-fous entre ma femme et le mal. Parce que quand tu montres l'amour, tu sécurises ton partenaire. Tu le bloques dans un certain piédestal. Mais partout où il y a le soupçon, partout où il y a la, on est en train de rechercher la faute, ce que tu recherches, tu finis par trouver. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il faut faire très attention. Je vais même loin. Il y a des femmes ou des hommes qui modifient le comportement de leur partenaire par leur pensée. Parce que si je pense mal à l'égard de mon partenaire, ma pensée va influencer ce qu'il est parce qu'on est devenu un. Est-ce que ça va? Et c'est pour ça qu'il est très important de ne jamais laisser accès aux pensées négatives en ce qui concerne ton partenaire ou ton conjoint. Jamais de la vie. Même si on te rapportait quelque chose, la première réaction, je l'aime, je le pardonne, je supporte, j'endure. Mon but à ses côtés, c'est de l'aider à être épanoui dans sa relation avec Dieu. Et moi, en tant que pasteur, vous m'avez avoué vos adultères, vos avortements, certains même des meurtres dans cette salle. Mais je n'ai jamais dit à quelqu'un, même à ma propre femme, je vous aide en tant que pasteur à vous améliorer dans la marche avec Dieu. Mais pourquoi l'homme, homme, être humain, la dame de la nature humaine, nous avons tendance
à ne pas manifester l'amour. Frère, le mariage, ta maison, est l'endroit où l'amour doit être. Quand tu entres chez toi, il doit avoir l'amour. Il faut aimer. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Je dis bien, il n'y a rien. Même si ton compte bancaire est fourni n'importe comment, c'est l'amour la clé. Ta maison devrait être le paradis sur terre. L'amour devra envahir toutes les pièces de ta maison, tous les endroits de ta maison, parce que c'est ta maison. Est-ce que vous me comprenez? Et quand l'amour est quelque part, le ciel est ouvert dans cet endroit parce que Dieu est amour. Il faut que l'amour soit quelque part. Est-ce que ça va? Mais écoute-moi bien, comment est-ce que tu feras pour marcher dans cet amour si au départ tu n'as pas respecté ce que Dieu dit? Pourquoi toi, chrétienne, tu vas épouser un païen? Pourquoi toi, païen, tu vas épouser chrétienne, tu vas épouser un païen ou chrétien une païenne? Non! Est-ce que tu accepteras d'avoir pour beau-père Satan? Est-ce que vous savez que, j'ai dit ceci, c'est une alliance, n'est-ce pas? Et si ton partenaire que tu veux épouser, qui deviendra ton conjoint, a pour père Satan, le jour de ton mariage, Satan est invité. Et donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu me demandes, Satan est invité en tant que père. Pourquoi est-ce que tu vas me demander, moi, de venir célébrer un mariage où Satan est assis à la table? Je ne viendrai pas. Ah, vous comprenez? Je ne viendrai pas parce que je ne peux pas aller célébrer un mariage où vous avez donné une place d'honneur à Satan. Or, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, je prierai pour lui afin qu'il se convertisse. Dis-moi, tu as prié pour toi-même avant de naître? Est-ce que tu as prié avant de sortir de la côte de laquelle tu as été faite? Pourquoi tu veux aider Dieu à faire un travail qu'il doit faire pour toi? Pourquoi tu veux aider Dieu à te bénir? Ne penses-tu pas que Dieu soit capable de te donner un homme ou une femme qui va t'épanouir? Et j'entends dire non, surtout les femmes aujourd'hui, à l'église, il n'y a pas des hommes qui nous correspondent. Vous les trouvez où dans le monde? La correspondance, elle est très superficielle. Je vais vous dire la vérité. Parce que tout ce qui brille, ne brille pas toujours. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que ça va? Tout ce qui brille, ne brille pas. Est-ce que ça va? Bon, on parlera d'autre chose, c'est vrai. Que ce n'est pas une excuse pour arriver à la prière avec les odeurs de sueur. Ou alors se balader avec des t-shirts déchirés pour dire, bon, sœur, Dieu m'a dit, tu es ma femme. On ne se marie pas parce qu'on a eu une prophétie. Je t'assure, même si ton pasteur t'a dit par prophétie, épouse-t-elle, il ne faut jamais te marier par prophétie. Le pasteur ne sera pas avec toi dans la maison. La prophétie ne dormira pas avec toi sur le lit. Tu feras face à quelqu'un, seul dans ta chambre. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que ça va? On n'intimide pas une femme pour l'épouser. Oh, Robo Sarabababa. L'Esprit du Seigneur me révèle. L'Esprit du Seigneur me révèle. Parce que j'ai vu, tu volais comme un ange et dans les airs. Non, 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 non. Il ne faut pas intimider une sœur par la prophétie. Oh, sœur, si tu ne me pousses pas, le ciel va être fermé sur toi. Pourquoi est-ce que tu veux que dès le départ, ce soit par la peur que la femme t'épouse? Non, écoutez-moi bien. La Bible dit, ils deviendront une seule chair. Mais quelque part, il faut quand même que sa chair aime ta chair. Est-ce que vous me comprenez? Avant autre chose, il faut d'abord que les deux chairs s'attirent. Comment est-ce que les deux chairs vont être un s'ils ne peuvent pas s'attirer? Il faut que les deux s'attirent d'abord, avant que le reste ne suive. Donc, il ne faut pas intimider. N'intimide pas. Il faut être vrai. Tu as vu une sœur qui a fait couper ton souffle. Une fois, deux, trois, quatre, prie encore. Si c'est elle, tu as besoin de conseils, viens me voir. On va te donner des conseils. Mais dis à la sœur véritablement, waouh, quand je te regarde, je deviens aveugle, je ne vois plus rien. Tu es si magnifique, amen. Dis-lui ce que tu penses. Ça peut paraître insensé, mais sois un poète pour elle. Vous comprenez? Laissez-moi vous dire une chose. Hein? Souvent, vous refusez de faire la poésie à celle que vous voulez avoir. Et les païens utilisent la poésie comme appât. Parce qu'aucune femme sur la terre n'est insensible aux belles paroles. Aucune femme sur la terre n'est insensible aux belles paroles. Aucune. Même si, écoutez-moi bien, même si cette femme dort chaque jour avec le roi, cette femme reste très sensible aux belles paroles. La femme n'est pas sensible à l'argent. C'est... Non. Elle n'est pas sensible à ta voiture. Bien que souvent, quand la femme voit la voiture, elle aime bien regarder. Mais au-delà de toute chose, quand elle a eu ces choses, s'il n'y a plus de parole, c'est comme une Jaguar ou une Porsche Cayenne sans essence sur le boulevard. Ça finit par s'arrêter. Les paroles sont à la femme comme l'essence est à la voiture. Je vous dis la vérité. Et ce n'est pas parce que tu as dit une belle parole hier que tu vas prendre ta poudre. Je te... Non, chaque jour, elle a envie d'entendre quelque chose de nouveau qui sort de ta bouche. Est-ce que vous me comprenez? Et ça, c'est important. Elle dira, oh, mais pourquoi tu ne m'écris plus des SMS comme avant? Pourquoi tu ne m'appelles plus comme avant? Pourquoi si, pourquoi ça? Et on parlera de ça la fois prochaine. On parlera de ça. Qu'est-ce qui cause ces problèmes? Amen. La fois prochaine. Amen. Et ensuite, pour terminer, frère, sœur, si ton mari, tu es marié païen, et ton mari, tu as converti, ton mari est païen, tu n'as pas le droit de le chasser. La Bible dit, s'il consent à rester avec toi, garde-le, parce qu'il est sanctifié par toi. Mais s'il veut partir, laisse-le partir. Et là, tu peux te remarier. Mais ne sois pas comme ceux qui disent, je prie que le Seigneur le fasse partir. Non. Tu dois prier pour qu'il soit converti et que Dieu le touche. Ta famille est le premier endroit où la gloire de Dieu doit se manifester. Mais s'il part, tu n'es pas lié. Et je vais terminer en disant, suis-moi bien, il y a des chrétiens qui sont chrétiens aujourd'hui et en 2010 seront des païens ou des incroyants. Dieu seul sait. Il y a des gens qui étaient fidèles à Dieu et plus tard demandent le divorce. À mes yeux, quelqu'un qui demande le divorce a perdu la foi. Je vous dis la vérité. Quelqu'un qui demande le divorce, il a renié la foi. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin des membres de sa famille est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Un enfant de Dieu devrait avoir le divorce en horreur. Demander le divorce, c'est régner la foi. Mais si tu as divorcé pendant que tu ne connaissais pas Dieu, viens à Dieu à l'état où tu es. Amen. Viens à l'état, à Dieu à l'état où tu es. Alors, si ton partenaire t'a quitté, tu es libre de te remarier. Mais cette fois-là, il faudra être sûr de ne pas faire un troisième mariage. On peut divorcer sans avoir divorcé. On peut divorcer parce qu'on a été victime du divorce. Il y a deux personnes ensemble, celui qui demande le divorce et celui qui divorce. Celui à qui le divorce est demandé est victime de divorce. Dans l'Ancien Testament, les femmes étaient victimes. On leur donnait la lettre de répudiation. Et elles portaient la lettre pour dire, je ne suis pas coupable, c'est pour ça que je peux aller vers un autre homme. Celui qui demande le divorce, aux yeux de Dieu, c'est lui qui est punissable. Quel que soit ce qui arrive, il faut croire en ton partenaire. Il faut croire le meilleur pour lui et Dieu le fera. Que Dieu bénisse ton cœur.